Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le carnet de région de cette semaine, le carnet de région, un journal d'actualité proposé par plusieurs radios associatives de la région Languedoc-Roussillon. Et pour ce mois-ci, c'est Radio Escapade qui s'est occupée de sa mise en onde. Au sommaire de ce carnet de région, nous ferons le bilan des emplois à venir dans le Gard un an après leur lancement. Nous irons également du côté de Montpellier qui pourrait accueillir prochainement un village d'insertion pour les Roms. Ensuite, direction l'Aude où s'est déroulé un festival unique en France. Vous en saurez plus dans ce carnet de région. Puis nous continuerons avec un petit tour à Saint-Ambroix pour le 13e salon régional Vivre Livre. Et enfin, retour à Montpellier où dimanche et lundi prochain, une nouvelle ZAT va investir les quartiers de Boutonnet et le quartier des Beaux-Arts. On commence ce carnet de région en parlant emploi et plus précisément emploi d'avenir. Ce dispositif a été lancé il y a un an maintenant dans le Gard. Il permet aux employeurs d'obtenir des aides pour l'embauche de jeunes de moins de 25 ans et d'un niveau de diplôme égal ou inférieur au bac, le tout à temps plein et pour une période de 3 ans. Cette semaine, à Saint-André-de-Magencoul, dans les Cévennes gardoises, un bilan de ce dispositif a été dressé. La mission locale Cévennes Garrigues suit 2200 jeunes à l'année et 1000 d'entre eux relevés de ce dispositif emploi avenir. L'objectif pour 2013 est resté modeste pour cette mission locale, c'était de faire signer 153 jeunes. Seulement aujourd'hui, en ce mois de novembre, seulement 120 contrats ont été effectivement signés. L'occasion pour le sous-préfet du Vigan, Gilles Bernard, de remobiliser les élus, notamment comme il l'explique au micro de Radio Escapade.
La mission locale qui est en charge, qui est la cheville ouvrière du dispositif, a déjà obtenu des résultats tout à fait intéressants. Mais maintenant, et c'est l'objectif de la réunion de ce soir, il s'agit d'aller encore plus loin en essayant de convaincre notamment les collectivités territoriales de l'intérêt de recruter des emplois d'avenir pour des emplois qui seraient chez eux utiles et qui permettraient à un certain nombre de jeunes qui ne parviennent pas à entrer sur le marché du travail de trouver un emploi. Ce qu'il faut faire maintenant, comme nous l'avons fait ce soir, c'est permettre aux élus qui se posent des questions de prendre contact avec les maires qui ont déjà engager des emplois jeunes, de manière à leur poser toutes les questions qui leur paraissent utiles et pour avoir un vrai témoignage de ce qui est possible de faire. C'est tout l'objet de notre réunion de ce soir et je vais d'ailleurs écrire dans les jours qui viennent à l'ensemble des maires de l'arrondissement en leur donnant la liste de ceux d'entre eux qui se sont déjà engagés dans le dispositif de façon qu'ils prennent contact avec eux pour s'inspirer éventuellement des bonnes pratiques qu'on a pu constater. Donc globalement, le directeur du travail et de l'emploi l'a d'ailleurs dit, nous avons de très bons retours d'expérience puisque très peu de contrats ont été rompus. C'est donc un signe très encourageant pour la suite. Et s'agissant du secteur marchand, moi j'observe que 35% de financement de la part de l'État, c'est quelque chose de tout à fait positif et qui peut être en réalité attractif, surtout pour des entreprises relativement jeunes qui ont encore des difficultés pour embaucher. Et c'est un premier pas pour eux faire confiance à un jeune avec 35% de subvention qui est quand même un taux déjà intéressant.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
L'idée de la mise en place d'un village d'insertion pour les Roms fait son chemin à Montpellier et pourrait s'approcher d'une concrétisation. En avril dernier, la ville de Montpellier, en collaboration avec la préfecture de l'Hérault, l'État et les autres collectivités concernées, lançait une enquête qui visait à mieux cibler l'installation de ce type de village. L'enquête semble concluante puisque certains élus et personnels administratifs se montrent de plus en plus favorables au dispositif et c'est le cas du préfet de l'Hérault, Pierre de Bousquet, qui évoquait le sujet hier en conférence de presse.
Je crois qu'il est 20 d'imaginer que toute la population d'origine rome a vocation à repartir vers son pays d'origine. Et donc, nous devrons intégrer ceux qui le souhaitent véritablement et qui présentent les capacités pour dans notre pays. À Montpellier, agglomération de 450 000 habitants, qui intègre bon an mal an 1 000 habitants nouveaux tous les mois, il y a certainement une possibilité, mais avec un petit sas pour faciliter l'intégration de ces personnes, le village d'insertion qui offre à la fois une structure d'habitation et des capacités d'accompagnement, de réunion, de pédagogie, est une solution à laquelle les élus d'ici ont pensé et qui certainement devra être reprise. Cette insertion n'est pas de la responsabilité de l'État, mais de la responsabilité des collectivités locales, mais l'État l'accompagnera puisque l'État le souhaite et envisage d'être aux côtés des collectivités pour aider à cette insertion, la faciliter.
Le préfet de l'Hérault, Pierre de Bousquet, au micro de Liliane Dré de Radio Aviva. Si la mise en place de ce village d'insertion paraît une solution très humaine pour pallier aux difficultés des Roms, le dispositif reste tout de même assez limité. Le village imaginé par la mairie accueillerait en effet une vingtaine de familles, soit environ 80 personnes, alors que la population Rom de Montpellier, répartie dans 8 campements autour de la ville, compterait à l'heure actuelle plus de 500 personnes. La ville annonce par ailleurs qu'une fois ce village réalisé, elle considérera avoir fait sa part de l'effort envers cette population et demandera le démantèlement de tous les campements illicites situés sur son territoire. C'était un sujet de Radio Aviva.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Dans l'Aude, du 30 octobre au 3 novembre dernier, s'est tenu le festival Voix d'Étoiles. C'était à Port-le-Cate. Ce festival était entièrement dédié aux voix de l'animation. Éric Boyer, de RCF Pays d'Aude, est allé promener son micro.
Pour nous présenter ce festival de voix que vous connaissez sûrement.
Alors, le festival de Port-le-Cate, déjà, c'est un festival d'amis. Amical, amitié, avec la mairie. Et puis, rencontrer tous les gens et les petits-enfants.
Oui, c'est super ces voix d'étoiles. Alors, voix d'étoiles, eh ben, c'est un hommage aux voix de l'animation, aux voix célèbres de l'animation. Alors d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je suis invité, moi, parce qu'en fait, personne ne me connaît. Je suis là incognito.
Vous aurez sûrement reconnu Homer et Marge de la série Les Simpsons, qui existe déjà depuis 24 ans, avec les voix françaises Véronique Augereau et Philippe Pétieux, dont ce n'est pas la première participation à ce festival Voix d'Étoiles à Port-le-Cate, consacré aux voix de l'animation. Un concept original qui n'a pas son équivalent en France. Michel Py, maire de Le-Cate.
Alors ce festival est original. Au départ, il y a un objectif économique, étirer la saison. Voilà, organiser des événements sur la fin de l'été, le début de l'automne pour continuer donc à dynamiser la station. Quand cette période de l'année, organiser des choses en extérieur est risqué. Donc on a aussi une clientèle qui est une clientèle très 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 familiale ici à Le-Cate, à Port-le-Cate.
Ces rencontres sont assez intimistes et de qualité.
Voilà, les rencontres sont intimistes, il y a beaucoup de rencontres qui sont organisées, beaucoup de public aussi qui se répartit entre elles. Et c'est vrai que l'idée de faire quelque chose autour de l'animation nous est venue assez rapidement pour la fin du mois d'octobre, le début du mois de novembre. Il existait déjà un certain nombre de festivals consacrés à l'animation, mais aucun aux voix du cinéma d'animation. Et pour ne pas refaire ce qui s'était déjà fait, c'est cette niche qu'on a choisi de développer, sur laquelle on a choisi de mettre l'accent, et bien nous en a pris, parce que depuis, on se rend compte que de tout type d'acteurs, de la nouvelle génération, comme les plus grands ou les plus confirmés, viennent s'essayer au doublage de films d'animation, et depuis, les projecteurs ne cessent de se braquer sur ce travail-là, et tout cela va avec la croissance de Voix d'Étoiles, donc c'est parfait, c'est un bel investissement et un festival qui, je pense, promis à de beaux développements encore.
Et en 8 ans, ce festival Voix d'Étoiles à Port-le-Cate a vu sa fréquentation passer de 1000 à 5000 visiteurs pour assister à des projections, participer à des ateliers avec un jury adulte pour juger de la qualité des longs métrages, mais aussi un jury enfant pour juger de la qualité des séries télévisées animées. Vendredi, une journée était d'ailleurs consacrée à la série Les Mystérieuses Cités d'Or, dont la diffusion de la première saison a eu lieu il y a 30 ans et que les téléspectateurs d'alors n'ont pas oublié. Un des deux réalisateurs de la première saison, Bernard Derriès.
Quand on a réalisé la première série il y a 30 ans, il n'y avait pas de sondage et on n'avait pas de retour d'audience. On savait que ça marchait plus ou moins bien quand il y avait quelques lettres à la chaîne, un peu plus nombreuses que d'habitude.
Donc ça se démarquait à l'époque déjà, ça ne ressemblait pas à ce qui
voilà,
passait.
Voilà, alors ça ne ressemblait pas et la chaîne était contente de diffuser ça et avait surtout quelques lettres supplémentaires qui lui permettaient de penser que ça marchait pas trop mal. Et quand les sondages sont apparus, elle s'est aperçue que la série était une série qui marchait à chaque diffusion, à chaque fois. Et tout doucement est montée du public l'envie d'avoir la suite. Et les chaînes à l'époque étaient bizarrement pas décidées. Et les spectateurs anciens qui étaient des enfants à l'époque sont devenus adultes et sont devenus, eux, des conseillers auprès des chaînes, sont devenus des gens qui avaient vu cette série et qui, petit à petit, ont créé une sorte d'appel pour faire la suite. Et c'est un peu comme ça qu'il y a une dizaine d'années, on a commencé à y penser, qu'on a mis les choses en place, que les gens sont arrivés au pouvoir, entre guillemets, les jeunes, les anciens jeunes qui étaient devenus donc les adultes, et
les
qui,
quadras.
Tout doucement, les quadras, c'est grâce à eux qu'on a réussi à mettre cette nouvelle série sur orbite.
Et les participants à ce festival Voix d'Étoiles à Port-le-Cat ont pu donner leur avis sur la seconde saison des Mystérieuses Cités d'Or, actuellement diffusée à la télévision et qui fait le bonheur des petits mais aussi des grands. Ils ont pu aussi discuter avec plusieurs des acteurs qui prêtent leur voix et mieux comprendre les techniques utilisées. Une bonne cuvée donc pour un festival à la fois grand public et intimiste à Port-le-Cat qui donne un accès facile au monde des voix de l'animation, encore souvent mal connu.
Direction Saint-Ambroise maintenant, où pour la 13e année consécutive, l'association La Fenêtre organise ce week-end le salon régional du papier, écriture, impression, reliure, édition et du livre, le salon qui s'appelle plus simplement Vivre-Livre. Pour cette édition 2013, le salon sera consacré aux mythologies et merveilles, avec au programme beaucoup d'animations et aussi, bien sûr, des auteurs qui seront présents pour dédicacer leurs œuvres. Michèle Delaroque, présidente de l'association La Fenêtre, organisatrice du salon, s'exprime au micro de Laurent Bonnefoy de Radio 16.
Disons que chaque année, on se fait fort de changer de thématique, de façon à ne pas tomber justement dans un train-train. Pour trouver des auteurs nouveaux, des plasticiens nouveaux, ce qui n'est pas toujours évident. Mais quand il y a une thématique qui est imposée, déjà, ça limite ce genre de choses. Donc, cette année, nous sommes partis sur mythologies et merveilles. En fait, j'ai mis mythologie au pluriel, parce qu'en fait, il y a toute source de mythologie. Et merveille, parce qu'on voudrait déborder sur le conte, le merveilleux, le fantastique. Et là, je pense qu'on a quelques auteurs, quelques plasticiens qui ont vraiment œuvré dans... C'est aussi une thématique qui peut s'adresser à tout public dans le sens le plus large. Disons qu'il y a des auteurs qui sont sur la thématique choisie et qui viennent des quatre coins de France. On a beaucoup de maisons d'édition et d'auteurs, par exemple, qui viennent de la région parisienne. Et puis, il y a l'autre groupe d'auteurs, disons, plus régionaux, qui sont tout en étant très créatifs sur le plan de leur univers, mais qui sont plus axés sur l'histoire locale. Alors cette année, nous avons des animations autour du salon et des animations permanentes. Plutôt que des conférences qui n'attirent pas toujours grand monde, là, depuis 2 ans, on préfère axer notre organisation sur vraiment le côté animation. Parce qu'il y a des animations pour les jeunes, pour les moins jeunes, et puis ça crée une dynamique au sein même du salon. Ce qui m'a fait énormément plaisir cette année, c'est que plusieurs associations, de petites associations, toutes nouvelles dans la commune de Saint-Ambroise, qui ont voulu participer à leur manière et qui, avant salon, ont organisé des expositions, que ce soit photos, que ce soit des expositions de plasticiens, des animations sur le thème que nous avions choisi. Il y aura vraiment tout un côté un petit peu magique. Ce seront des animations ponctuelles tout au long du salon. Il est vraiment essentiel que, d'abord, les gens n'oublient pas ce deuxième week-end de novembre, parce que c'est important. Et on se rend compte, si chaque année il y a de plus en plus de monde, c'est peut-être que, on avait un certain public qui était en attente d'une manifestation de ce type-là. Alors pourquoi salon du régional, du papier, de l'écriture, de l'impression, etc. C'est que tout simplement, un salon du livre, c'est un peu restrictif.
Et pour finir ce carnet de région en direction Montpellier est la 7e édition de la ZAT, la zone artistique temporaire. 40 spectacles et autres surprises urbaines seront offertes à tous les curieux qui viendront faire le déplacement. Au total, cela représente 100 rendez-vous totalement gratuits. Un événement unique puisque pour chaque ZAT, la programmation artistique s'inspire de l'histoire, de l'usage ou encore du paysage des lieux investis. C'est ainsi que pour les quartiers Boutonnet et Beaux-Arts, la thématique du « do it yourself » a été sélectionnée. Au micro de Maxine Triano de Radio FM+, le directeur artistique de la ZAT, Pascal Lebrun-Cordier, nous explique ce choix.
La ZAT Beaux-Arts Boutonnet, le 10 et 11 novembre, tourne autour de la question du do-it-yourself. Do-it-yourself, c'est-à-dire fais-le toi-même, faisons-le ensemble. Et donc, cette thématique est liée au fait que dans ces deux quartiers, les habitants font preuve de beaucoup d'initiatives, créent des festivals, des projets artistiques. Et donc, on va amplifier ce mouvement avec des spectacles, des surprises urbaines, des installations, où certains habitants vont participer. Il y en a 300 qui sont dans les ateliers en amont de la ZAT, qui vont être sur scène, jouer avec les artistes, mais également d'autres spectacles qui vont parler de la main, du fait main, des mains qui dansent, qui chantent, qui parlent. La programmation est effectivement très dense. J'invite tout le monde à s'emparer du programme et à préparer sa ZAT. Les ZAT, ce sont des spectacles et des installations artistiques dans l'espace public, gratuites, mais qui sont en écho, en résonance avec les quartiers. C'est une programmation contextuelle, d'une certaine manière. Donc là, effectivement, c'est la couleur de cette ZAT. Une ZAT qui sera très joyeuse, très participative, très exploratoire aussi, puisque les deux quartiers sont très grands, donc on va beaucoup déambuler pour découvrir les charmes de ces deux quartiers.
Alors, ces deux quartiers sont découpés au niveau de la mairie, ils sont séparés, mais finalement, leur histoire se recoupe.
Oui, on retrouve effectivement, par exemple, beaucoup d'institutions religieuses dans ces deux quartiers qui ne sont pas forcément connues d'ailleurs du public, cachées derrière des murs. On retrouve cette énergie dont j'ai parlé, cette énergie associative, parfois un peu libertaire aussi. Et puis dans l'architecture et l'urbanisme, hein, sont des faubourgs, donc des petites rues très agréables avec des maisons, des espaces à découvrir.
Plus curieux pour les nouveaux Montpelliérains ou ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de tous les quartiers, la présence de vaches.
Oui, parce qu'il y avait des abattoirs ici au Beaux-Arts. On ne le sait pas toujours, mais jusqu'en 84, il y avait deux abattoirs. Donc j'ai eu l'idée d'inviter deux vaches et aussi toute une programmation autour des vaches et des abattoirs. Jean-Louis Trintignant, le grand Jean-Louis Trintignant, sera là pour dire des vacheries avec Michel Arbatz, des poèmes sur les vaches. Il y aura aussi des fresques géantes de Halle avec des photos d'archives sur l'histoire de ces deux quartiers. Et puis un petit film très étrange d'un artiste anglais, Syriac, avec des vaches génialement modifiées, des OGM. C'est un projet ludique, très fantaisiste. Il y a beaucoup de films dans cette ZAT aussi, des films réalisés avec des habitants. Un film en stop motion qui sera réalisé la veille de la ZAT avec une centaine d'habitants du quartier et qu'on va projeter pendant les deux jours. Voilà, beaucoup de choses à découvrir.
L'idée, donc, c'est venez participer, venez voir, venez découvrir. Mais alors, il y a énormément de choses. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à nos auditeurs pour qu'ils puissent profiter de cette ZAT pleinement et tranquillement?
Oui, le conseil, c'est d'aller récupérer un programme dans un des lieux où il est mis à disposition du public, dans les maisons pour tous, par exemple, ou sur le point d'info de la ZAT, quand on arrivera. Il faut venir le plus tôt possible dimanche. C'est dimanche et lundi, 10 et 11 novembre. Et ensuite, il faut prendre un petit quart d'heure pour composer son programme, prendre l'agenda, pour enchaîner les spectacles et pouvoir maximiser en quelque sorte son expérience de zatteur.
Un dernier mot pour nos auditeurs qui ne seraient peut-être pas encore convaincus de venir le 10 et le 11 novembre dans ces deux beaux quartiers.
Alors un petit mot pour dire que les ZAT rencontrent un très grand succès depuis 2010, depuis 3 ans. À chaque édition, il y a un peu plus de monde. Des gens qui découvrent la ville autrement, qui découvrent des projets artistiques, qui vivent des expériences intenses. Je ne peux qu'inciter les uns et les autres à regarder sur Facebook ou sur le site de la ZAT les films des précédentes éditions et à se laisser porter par l'énergie des ZAT.
Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
C'est la fin du carnet de région pour cette semaine, journal d'actualité régionale proposé par plusieurs radios associatives du Languedoc-Roussillon. Moi je vous dis à la semaine prochaine.